Donc, on va vous animer un atelier sur comment évangéliser dans un contexte postmoderne. Alors, je propose c'est que ceux qui sont au fond, Alexandre, tout ça, puissent vous approcher. Donc, comment évangéliser dans un contexte postmoderne. Donc, Thomas, peut-être tu peux te présenter rapidement. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Thomas. Peut-être qu'on ne connaît pas Thomas. Donc, Thomas, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ok, merci. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille pour une association qui s'appelle France Évangélisation, comme prédicateur de l'évangile, donc comme formateur aussi pour aider les chrétiens à témoigner. Et puis je fais aussi un petit peu d'aumônerie de prison, à la prison de Meaux, en Seine-et-Marne. Et puis je produis des petites vidéos sur internet pour essayer de répondre aux questions que les gens peuvent se poser par rapport à la foi chrétienne. Donc, si vous avez envie de découvrir, c'est la chaîne s'appelle Thomas le Pasteur sur YouTube. Voilà.
Ok. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Clément, je suis de l'église de Saint-Maur. Je suis ingénieur en environnement, tout ce qui est bâtiment durable, développement durable. Voilà. Et je sers dans mon église, dans la prédication, dans la louange et tout ce qui est suivi de disciples, etc. Voilà. Donc, avant de commencer, je propose de prier.
Ça marche.
Seigneur mon Dieu, nous te remercions parce que tu es avec nous encore aujourd'hui. Et sans ton esprit, sans ta présence, Seigneur, nous ne sommes rien. Et merci Seigneur parce que tu vis en nous, parce que tu nous as donné de ton esprit, Seigneur, pour qu'il puisse vivre en nous. Et tu nous as rachetés à la croix, Seigneur, comme l'a dit notre frère Timothée. Nous te prions pour qu'aujourd'hui tu puisses nous parler à travers cet atelier que nous allons co-animer. Et Seigneur, je te prie pour te remettre entre tes mains et je te prie à son nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ok. Donc, dans cet atelier d'abord, il va se dérouler en à peu près 4 temps. Un premier temps assez rapide où je vais vous expliquer rapidement un peu une frise chronologique de l'histoire. Ok. Pas depuis la préhistoire, ce serait trop long de retourner en arrière. Et puis, on va pas forcément tous les mêmes positions par rapport à la préhistoire aussi. Mais de l'histoire. Ensuite, on parlera de qu'est-ce que c'est l'époque moderne. On parlera ensuite de l'époque postmoderne et enfin on parlera de comment l'Église peut apporter une réponse à ce contexte qui est postmoderne dans lequel vous êtes tous aujourd'hui. L'époque prémoderne, l'époque moderne et l'époque postmoderne. Donc c'est important de savoir d'où est-ce qu'on vient. Donc, j'ai fait un graphique dans lequel on résume à peu près ces trois époques, donc prémoderne. Moderne 1, moderne 2, donc ça fait partie d'époque moderne. Et enfin, l'époque postmoderne, qui est jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, pour simplifier, on n'est pas forcément tous d'accord sur les dates, mais grosso modo, c'est un peu ça. J'ai repris un peu les dates de vos cours d'histoire du CE2, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'époque prémoderne, ça pourrait monter même jusqu'à l'Antiquité, donc encore avant 476. Mais on va dire que c'est le Moyen-Âge, grosso modo, l'époque prémoderne. Donc, en gros, 476, donc c'est la date de... 476, c'est quoi la date? La chute de Rome, fin de l'Empire romain d'Occident. Bravo! Cours de CE2 qui est bien resté. Et ça se déroule jusqu'à 1492. C'est quoi 1492?
Découverte de l'Amérique,
Christophe Colomb, tout à fait. Donc, c'est une époque dans laquelle, en fait, si on prend tout ce qui est sociétal, tout ce qui est politique, et bien, tout tourne autour de la religion. La religion, Dieu, en tout cas, est au centre. Okay. Ensuite, on arrive dans une époque moderne qui se déroule en deux temps. Une première partie que j'appelle Moderne 1. Donc c'est de 1492 à 1789 qui est
prise
de la Bastille, la Révolution française, tout à fait. Et c'est une époque dans laquelle, en fait, on va avoir la Renaissance, vous connaissez les Lumières aussi, avec Voltaire, Rousseau, tous ces bouquins on vous a forcé à lire, peut-être en seconde, en première et autres. Et en fait, petit à petit, on questionne un peu la place de Dieu. On se dit, mais du coup, Dieu, il est au centre, mais il ne devrait peut-être pas être au centre. Du coup, on va essayer d'expliquer Dieu avec la raison. Et finalement, on va passer d'une société qui est plutôt théiste, vous savez, moi avec un seul Dieu, à une polité plutôt déiste. C'est possible qu'il y a Dieu, on peut l'expliquer avec la raison. Et on arrive petit à petit, à l'époque moderne 2, donc j'appelais moderne 2. C'est la deuxième modernité, donc c'est la Révolution française. On coupe la tête au roi, hein, et elle s'écoule jusqu'à 1989, qui est...
Troisième naissance.
Ah, non.
Bravo.
Non. Je suis en 88, donc c'est pas... Moi, j'ai connu la chute du mur de Berlin, voilà. 1989, la chute du mur de Berlin, où on a vraiment un bouleversement de la place de Dieu et de l'homme, parce que à ce moment-là, finalement, on enlève la place de Dieu. Vous vous rappelez, temps pré-moderne, on avait Dieu au centre. Ensuite, temps moderne 1, on explique Dieu avec la raison. Et temps moderne 2, ben on essaie de mettre un peu Dieu en dehors de tout ça. Okay ? Parce que on arrive dans une époque où on va tout expliquer par la raison, mais vraiment tout. Et c'est une société qui devient individualiste, matérialiste, avec le darwinisme, donc la théorie de l'évolution dont vous avez beaucoup parlé en cours de troisième.
Première
aussi, SVT. Le socialisme, le psychologisme avec Freud. Peut-être que vous avez lu Freud pour certains en cours. En tout cas, on vous a obligé à lire. Et finalement, on a l'homme au centre. Et on se dit, bah, on est optimiste. On se dit, l'homme est bon. C'est comme une ardoise vierge. Il faut l'éduquer avec des bonnes lois. Et puis ça va être bien. Tout va bien se passer. Et finalement, on est aussi dans ce qu'on appelle la sécularisation. C'est-à-dire qu'on va tout relativiser. Ouais, mais tu vois, c'est pas vraiment comme ça. On peut sûrement expliquer ça comme ça. Voilà. Et en 1989, c'est un peu la date clé qui est prise en compte, on arrive à BOUM ! Les temps postmodernes. Bienvenue dans la matrice. Vous êtes tous dans cette époque postmoderne. Nous sommes tous dans cette époque postmoderne. On est tous à peu près ici, à part peut-être Thomas et moi, à être nés avant. Mais sinon, vous êtes tous nés dans cette époque-là. Et finalement, la raison ne suffit plus à tout expliquer. Alors Thomas va beaucoup plus expliquer un peu la modernité, la postmodernité. Là, c'est un petit résumé, hein, c'est juste pour que vous y voyez un peu. Et on va voir plein de choses négatives. On va voir qu'il y a une chute de l'optimisme. Il y a quand même eu deux guerres mondiales hein, dans cette époque moderne 2, donc en un siècle. On a aussi une incertitude politique, la fin du modèle un peu occidental, la Révolution française en 1789, quick, plus tête au roi. 1989, la fin du modèle communiste aussi. En tout cas avec l'URSS. Incertitude, alors c'est 91 hein, la vraie date, mais voilà, la chute du mur de Berlin, c'était l'amorce. Incertitude scientifique et technique. Finalement, on a eu plus de science, avec la science, on a pu faire plein de progrès, mais est-ce que vraiment ça améliore la situation des gens? Est-ce qu'il y a vraiment plus d'inégalités sur cette Terre? Pas forcément, la société n'est pas forcément plus épanouie. On n'a jamais eu autant de personnes isolées aujourd'hui. Quand vous regardez, beaucoup de gens sont isolés. On a aussi une incertitude du modèle familial avec la famille qui n'est plus vraiment au centre. Par exemple, l'adultère, ça devient normal. Le divorce, ça devient normal. L'avortement, ça devient légalisé. Voilà, des choses comme ça qui sont arrivées petit à petit comme ça. Il y a aussi une incertitude, ça c'est hyper important, philosophique. Alors, peut-être certains d'entre vous n'aimez pas la philo, mais en gros, avant on disait il y a une vérité. Et là, maintenant, on dit il y a plusieurs vérités. C'est selon l'humeur, selon... Voilà. Et finalement, la notion de vérité, elle est un peu... Elle n'est plus vraiment essentielle, en fait. C'est chacun sa vérité. Et enfin, parce que ça, c'est important pour moi, c'est une incertitude environnementale. Donc, avec tout ce qui est réchauffement climatique, etc. Et on voit que, on a de la neige en février, il fait super chaud en août, etc. Et ça, c'est un peu ces temps dans lesquels on est. Donc, voilà, c'est un petit résumé rapide. Et je laisse Thomas continuer.
Merci. Effectivement, donc pour bien comprendre la postmodernité, il faut bien comprendre ce qu'était la modernité. Et puis la postmodernité, on va voir, elle s'oppose ou alors peut-être certains disent elle la prolonge ou elle la complète, la modernité. Donc on pourrait retenir, si on veut retenir la modernité, pour comprendre après la différence et comprendre le monde postmoderne dans lequel on est, on pourrait retenir cette phrase. La modernité, elle se résume avec cette phrase, hein, si on retient que ça, on a compris. L'homme maîtrise le monde par sa raison. Dans la modernité, voilà comment on pourrait le dire. Donc dans cette période, l'homme maîtrise le monde par sa raison. Donc sa raison, son intelligence, c'est le fait de pouvoir réfléchir, conceptualiser les choses. Alors la modernité, en fait, elle se développe dans un contexte de révolution industrielle, de capitalisme, de démocratie, d'urbanisme et de mondialisation. Donc tout ça commence à la période moderne et donc ça donne beaucoup d'optimisme pour pouvoir comprendre le monde, faire des grands projets, des projets globaux dans le monde. Alors les différentes idées de la modernité, donc c'est le rationalisme. Alors, rationalisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est penser que la raison seule est source de toute connaissance. Voilà, on peut seulement comprendre par la raison. La raison est la seule source possible de toute connaissance réelle. Donc, ce qui est en dehors du domaine de la raison, on va dire que c'est pas possible de le connaître. On veut donc tout expliquer par la raison, sans recours à forcément la religion, par exemple. Donc c'est la raison qui est maître, et on veut tout pouvoir expliquer par la raison, sans recours à la religion. On est dans un temps de sécularisation, c'est-à-dire on ne fait plus référence au domaine de la religion pour organiser la société, pour expliquer les choses. C'est ça la sécularisation. On enlève les références religieuses pour gérer le monde, la politique. Voilà, dans notre pays, on peut voir qu'il n'y a pas d'allusion religieuse, bon, si ce n'est pour garantir la liberté de religion, mais sinon, nos lois, on veut les détacher d'une référence religieuse. On commence donc dans la modernité, enfin on continue à s'attaquer à la notion de miracle, puisque le miracle, bah, il sort de la raison, donc on s'attaque à la notion de miracle. Au niveau de la morale, on essaye aussi de construire une morale sans référence religieuse. Donc on construit une morale sans dire, voilà, c'est parce que nous sommes à l'image d'un Dieu bon que nous devons être bons. Non, ça, on veut construire une définition de la morale, de l'éthique, sans faire référence à Dieu. Et donc, dans la modernité, l'homme, on pourrait dire, est la mesure de toute chose. C'est ce qu'on appelle hein, l'humanisme. L'homme est au centre, il est son propre seigneur. Il se prend quelque part pour Dieu. Et donc, dans la modernité, quelques croyances, on croit au progrès, en fait. On croit qu'on va réussir avec notre intelligence, avec le capitalisme, avec la mondialisation, avec la démocratie, à faire un monde meilleur. On a foi dans le progrès. On a foi dans la science. On pense qu'avec la science, on pourra régler tous les problèmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les films de super-héros, en fait, bon, qui sont souvent réédités à l'époque postmoderne, mais en fait, ils viennent de cette époque moderne, hein, dans les années 50, hein, certains ont été écrits, et ben, on voit qu'il y a une foi dans la science incroyable. Avec la science, on peut devenir Spider-Man. Avec la science, on peut construire un Hulk. Avec la science, on peut être Iron Man. Donc, il y a une confiance dans la science, même si maintenant, les films, c'est teinté de postmodernité aussi, mais on voit quand même cette foi dans la science. Donc, on pense que la raison est omnicompétente, c'est-à-dire elle est compétente dans tous les domaines de l'existence. Voilà, c'est la foi de l'homme moderne. On croit donc dans des projets globaux et dans une vérité universelle. On pense qu'avec notre raison, on peut construire et arriver à découvrir la vérité, et une vérité donc universelle, valable pour tous. Donc voilà, en très gros, quelques caractéristiques de la modernité, donc jusqu'à à peu près 1989, et maintenant on va voir la postmodernité. Donc voilà, je vous rappelle, l'homme maîtrise le monde par sa raison, et la postmodernité, en fait, vient comme un virage par rapport à la modernité. C'est-à-dire que on se rend compte, comme l'a déjà dit Clément, que la raison n'arrive pas à faire un monde meilleur, que nos projets globaux s'effondrent, les grandes idéologies s'effondrent avec le communisme. On voit aussi certaines limites du capitalisme. Donc il y a deux guerres mondiales, l'homme était pourtant éduqué et il n'a pas réussi à éviter ces drames. On pourrait donc résumer cette nouvelle période de l'histoire, la postmodernité, avec cette phrase « Le monde échappe à toute compréhension et à tout contrôle ». On se rend compte que voilà, tout ce qu'on avait voulu mettre, eh ben, ça arrive à un échec. Donc on voit que la postmodernité est une rupture par rapport à la modernité. Alors bon, le mot « rupture » est peut-être fort, certains sociologues, économistes disent peut-être que c'est un accent particulier, mais je pense que l'idée de rupture est assez facile à retenir. Donc, deux guerres mondiales arrivent et forment cette rupture dans la modernité, et ça nous amène à la postmodernité. On a plus, on peut plus avoir foi dans un monde meilleur grâce à la raison, puisque voilà, les deux guerres sont arrivées. La raison ne suffit plus à tout expliquer. Vous voyez le contraste ? On voulait tout expliquer par la raison, et là, on se rend compte que c'est pas possible. On perd la confiance dans les grandes institutions.
Gilets jaunes.
Les gilets jaunes, ouais, c'est bah effectivement, hein. On se réfugie pas forcément derrière un parti, mais les grandes institutions comme c'était le bloc communiste, voilà, maintenant il s'effondre et toutes les grandes institutions, y compris quelque part l'Église, on perd foi dans toutes ces choses-là qui pensaient pouvoir expliquer le monde et on se rend compte que c'est limité. Vas-y.
Oui, du coup, par exemple, peut-être vous avez dans vos classes des personnes qui, en tout cas moi, dans ma génération, certains ils ont grandi dans les milieux un peu catholiques parce qu'ils croyaient en Dieu, quoi. Ils allaient à l'église, etc. Et finalement, ben, ils ont arrêté d'y aller et parce que en fait, ils ont perdu quelque part cette foi. Bon, ils avaient peut-être pas vraiment cette vraie foi, mais en tout cas, ils ont grandi dedans, ils ont arrêté d'y aller parce qu'ils ont été vraiment déçus. Donc c'est, et du coup, en fait, l'époque postmoderne, on n'est pas en train de faire. Peut-être c'est bizarre, on fait un cours, on fait, oh là là, c'est bizarre et tout, j'ai un samedi, déjà l'école du dimanche, j'ai l'école toute la semaine et tout, et là, Clément et tout, ils font un cours. Non, ce que je voulais vous expliquer, c'est que le monde fonctionnait d'une certaine façon, jusqu'à à peu près 1989, et depuis, ben, en fait, c'est le bazar, en fait. Vous allez voir, c'est vraiment le bazar, et tout le monde va continuer d'expliquer, et ce bazar, on va voir, bah. Faut déjà prendre conscience qu'on est dans ce bazar, quoi.
Voilà. Vas-y. Voilà, ouais. Donc, on perd la foi dans la science, dans le progrès. On croit plus aux projets globaux et les notions même de sens et de vérité sont vues comme oppressives. Si on dit, voilà une vérité globale qui est valable pour tous, ou voilà le sens de cette chose, et ben les gens vont tout de suite être sur leur réserve parce que les grands modèles, voilà, n'ont pas marché. Donc non seulement on a plus confiance dans la vérité, mais même la notion de vérité paraît oppressive. Pourquoi tu y aurait une vérité qui serait valable pour tous, ça paraît suspect. Donc voilà la rupture par rapport au monde moderne. On peut voir que la postmodernité est donc caractérisée par une diversité. On n'a plus donc de grande vérité universelle, mais la vérité se comprend comme étant vraie pour un groupe, pour une communauté. Par exemple, pour nous, Dieu il est comme ça. Voilà, mais c'est pour nous, hein, voilà. Et mais ne m'impose pas ton idée. Ça c'est ton idée, mais pour nous, Dieu il est comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de vérité qui s'impose à tous, mais elle est relative, elle appartient. C'est une vérité pour un groupe, pour une communauté. Chacun du coup se fabrique ses règles, sa vérité. Et par rapport aux valeurs morales, c'est à peu près pareil. Elles deviennent donc relatives, adaptées à seulement une communauté. Elles ne sont pas fixées par Dieu et pour tout le monde, mais chacun ou chaque petit groupe peut se construire sa moralité. Donc on est vraiment dans une grande diversité au niveau donc, de la vérité, de la moralité.
Moralité, c'est, pour faire simple, c'est ce qui est bien, ce qui est mal.
Voilà, c'est ça.
C'est juste pour, des fois, on utilise des mots, mais si vous ne comprenez pas, levez la main, dites... Je comprends rien ce que tu dis là. Voilà, ok. Moralité, donc, le bien, le mal.
Donc c'est bon maintenant cette idée de diversité. Il n'y a plus de projet qui englobe tout, mais chaque communauté se construit sa vérité. Et puis alors, pour faire drôle, j'ai fait les 10 commandements du postmoderne. Alors, ce n'est pas les commandements qu'on prend pour soi, hein, mais voilà. Premier commandement, tu n'auras pas de fondement objectif. Ouais, dans la postmodernité, hein. Donc, c'est-à-dire, on est dans un relativisme. Les choses ne sont pas fondées objectivement. Donc, on peut pas avoir, il n'y a pas une référence absolue, transcendante du type Dieu qui viendrait de l'extérieur nous imposer les choses. Et du coup, on est dans un relativisme. Les choses n'ont pas de fondement objectif. Et puis, ça nous concerne dans le domaine du témoignage, parce qu'on va se dire, enfin l'homme postmoderne va se dire, aucune religion n'a le droit de se prononcer sur ce qui est vrai ou comme seule vérité. On est dans un relativisme. On peut dire, voilà, c'est vrai pour nous, mais on va trouver immoral de dire qu'il y a une religion qui permet d'affirmer une vérité pour tous. Vous voyez, ça c'est... Donc il n'y a pas de fondement objectif. Premier commandement. Deuxième commandement, tu useras de tolérance. Et c'est un petit peu lié, puisque si ben, chaque communauté, chaque petit groupe a sa vérité, ben, et qu'on veut vivre, et sans se taper dessus, ben, on doit être tolérant. Donc accepter qu'il y ait des gens qui pensent différemment de nous, et quand même leur laisser donc, le droit de vivre et le droit de s'exprimer. Donc, vous voyez, tout n'est pas mauvais. Hein, mais troisième commandement, tu valoriseras l'individu. L'individu plus que la société. Je pense que voilà, donc il y a 100 ans en arrière, les gens avaient un sens très fort de la société. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour le bien de la société. Et maintenant, bon, c'est surtout centré ben, sur l'individu, la personne, son épanouissement personnel. Donc ça rejoint le quatrième commandement. Tu rechercheras ton épanouissement personnel. Voilà, chacun construit son bonheur pour lui-même. Tu te focaliseras sur l'instant présent. Cinquième commandement. Donc, comme on n'a plus foi en des grands projets globaux, on regarde ni dans le passé, ni dans le futur, mais on veut vivre voilà, l'instant présent. Tu remettras en cause les valeurs institutionnelles. Et par exemple, quelque chose qui se voit beaucoup, c'est par exemple les journaux sur Internet. Avant, ben voilà, on voulait savoir l'information qui a un I majuscule, on achetait par exemple le journal Le Monde, on était sûr, voilà, ça c'est l'information. Mais maintenant, l'information, on peut la trouver même sur des sites gratuits, sur des gens qui font des blogs. Et
sur Facebook aussi.
Sur Facebook, voilà, chacun partage exactement son point de vue sur l'information. Hop, on prend un live, voilà ce qui se passe là dans la rue en ce moment. Et on va pas passer par Le Monde pour nous dire ce qu'il y a dans la rue. Non, mais chacun peut même être source d'information. Et donc, il n'y a plus forcément de place pour une hiérarchie, mais chacun donc a dans sa contribution. Donc, on remettra en cause les valeurs institutionnelles. Et même dans le monde de l'entreprise, et il y a des choses qui sont bien, on a dans certaines entreprises, bon, il y a toujours une hiérarchie voilà, au niveau des salaires et tout, mais il y a souvent, c'est beaucoup plus dans le participatif, tiens, qu'est-ce que tu penses, comment tu peux contribuer, etc. Et donc le chef est vu plutôt comme un manager qui va essayer de développer le potentiel de son équipe, plutôt que celui, enfin j'idéalise peut-être, hein, mais plutôt que celui comme autoritaire qui va dire, ouais, toi tu fais ça, voilà. Ouais, voilà, et exactement. Hein. Donc là, c'était tu remettras en cause les valeurs institutionnelles. Septième commandement, tu seras indécis ou indifférent devant les multiples choix qui se présentent à toi. En fait, le problème, c'est qu'on est dans une situation où on a des tas de choix qui se présentent à nous. On peut manger ce qu'on veut, on peut regarder ce qu'on veut à la télé. Il y a 100 ans, il y avait une chaîne, ou peut-être même pas. Et voilà. Et puis maintenant, on n'a même pas besoin d'attendre que le film soit projeté à l'heure qu'on veut. On va sur Netflix, on regarde le film qu'on veut, quand on veut. On va pas... non, pourquoi je dois attendre 21h pour regarder ma série? Non, je regarde quand je veux. Et donc, on est confronté à des centaines de choix par semaine. Et en fait, on a du mal des fois à choisir. Du coup, par réaction, on va soit être indifférent, soit être indécis. Et on remarque même dans le domaine du témoignage, des fois on parle à des gens, mais il y a aussi une diversité de choix religieux. Et les gens, ils vont être indifférents. Ou alors, ils ne pourront pas trop se décider. Mais pourquoi ça, pas un autre, etc. Donc, tu seras indécis ou indifférent devant les multiples choix qui se présentent à toi. 8, tu remettras en cause les absolus. Il n'y a pas de vérité absolue qui s'applique à tous, et donc il faut remettre en cause. 9, tu te fieras à ton expérience. Alors ça, c'est intéressant. Une chose est bonne, non pas parce qu'elle est vraie, mais une chose est bonne parce qu'elle me plaît. Voilà. Donc, on se fie à sa propre expérience pour faire ses choix, pour s'orienter. Alors, quelqu'un a dit, donc, pour parodier Descartes, qui disait « je pense, donc je suis », il disait « voilà, je sens, donc je suis, je ressens, donc je suis ». En fait, ce qui va donc nous permettre de faire des choix, tout ça va être beaucoup nos sentiments plus que notre raisonnement.
Et quelqu'un a dit, donc, le modernisme était la tyrannie de la raison, le postmodernisme est une tyrannie des sentiments. Vous voyez, on oppose raison, sentiment. Donc, tu te fieras à ton expérience pour faire les choix. Et puis, dernier point, tu seras spirituel. Quand même, il y a cette quête spirituelle que l'homme ne peut pas effacer, mais il ne va pas forcément essayer de trouver la réponse dans les institutions, comme on l'a dit, donc dans les églises officielles établies depuis longtemps, mais dans des spiritualités qu'il va peut-être se fabriquer. Donc André Malraux avait dit « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et effectivement, nous sommes dans le XXIe siècle et il est religieux. Alors en France, par exemple, il y a 50 000 voyants, soit deux fois plus que de prêtres et 25 fois plus que de pasteurs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une quête spirituelle, puisqu'on cherche des médiums, des voyants, un rapport avec la spiritualité. Donc voilà un petit peu pour la postmodernité. Donc je remets cette phrase un petit peu de résumé. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, le monde échappe à toute compréhension et tout contrôle. Alors que la modernité était caractérisée par l'homme maîtrise le monde par sa raison, postmodernité, le monde échappe à notre compréhension et à notre contrôle.
Voilà. Petite parenthèse avant d'aller sur la suite et comment est-ce que en tant qu'Église on peut répondre à ça ? Peut-être déjà, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous avez quelqu'un qui est dans votre classe. Quand vous demandez quelle religion il est, vous avez des réponses, je suis bouddhiste, je suis catho, je suis chrétien, je suis musulman. Mais des fois, vous avez aussi des réponses comme je suis athée. Des fois, vous avez aussi une réponse comme je suis agnostique. Okay ? Donc athée, c'est celui qui croit qu'il n'y a vraiment pas Dieu, c'est vraiment anti-religion. Agnostique, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui a créé tout ça, mais je n'ai pas trop creusé, du coup j'ai un doute. On est totalement dans le post-moderne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on n'a pas fait une formation athée. Hein. On aurait pu aller dans des trucs de philosophie, mais c'était pas le but. Là, voilà, on est dans l'athée, l'agnostique sont un peu dans tout ce qui est postmoderne. Du coup. Donc, j'ai passé à une partie où j'ai plutôt présenté la réponse de l'Église. La couleur jaune, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est la plupart d'ici on est asiatique, ça n'a rien à voir, voilà. Donc dans ce que vous a dit Thomas, peut-être vous a dit purée, c'est quand même super négatif quoi ce qui se passe. Les gens sont déçus, ils sont en fond dans l'expérimental, waouh, c'est chaud. Et en fait, moi je me dis ouais, ok, c'est les ténèbres, ok, ouais, oui, c'est les ténèbres, mais là où il y a les ténèbres, on voit plus la lumière. Et devant tant de personnes perdues, il y a quoi comme solution ? C'est Jésus. Jésus dont on parle dans la Bible. C'est pour ça que, entre autres aussi, on va à l'église, bien sûr. Mais la solution, ça reste Jésus. Crucifié pour nos péchés. Mort à la croix. En fait, c'est la même réponse qu'il y a 2000 ans. Vous avez vu, on a commencé à 476, on arrive jusqu'à maintenant, époque pré-moderne, moderne, post-moderne. La vérité qui est dans la Bible... Et c'est ça qui est trop fort, les amis. C'est la même vérité. Donc si Jésus est la solution, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On doit imiter Jésus. Imiter Jésus. Et quand vous regardez dans les évangiles, on avait des pharisiens. Vous savez, les pharisiens, les docteurs de la loi, les religieux de l'époque. Et ces religieux, il fuyait un peu les personnes qui étaient différentes, les prostituées, les collecteurs d'impôts, etc. Il ne voulait surtout pas les fréquenter. Comment était Jésus ? C'est le contraire. Il passait du temps avec ces personnes-là. Il était rempli d'une autorité spirituelle. Mais en même temps, il parlait avec douceur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois, il a essayé de susciter une curiosité des gens. Il a utilisé des paraboles, des images, pour que les gens y comprennent. Parce qu'à l'époque, le métier peut-être le plus courant, c'était d'être berger, par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, quand on se dit l'Éternel est mon berger, il faut déjà expliquer c'est quoi un berger, c'est quoi les moutons, etc. Bon, c'est quoi un mouton, on a compris, mais voilà. Mais Jésus, prenait des images, parlait aux gens. Mais si ces personnes, elles voulaient pas le suivre, il n'était pas là à les retenir avec une laisse comme non. Jésus les laissait partir. Et c'est un peu la même façon de faire que je pense on devrait avoir en tant que chrétien. Et avant d'aller plus loin. Je vous propose d'avoir quelques versets clés. D'abord, un premier verset. Vous savez, dans Jean 17, donc c'est Jésus, c'est le dernier moment qu'il passe avec ses disciples. ça commence à Jean XIII, ça se finit à Jean XVII à peu près. Et là, on a vraiment la vie de Jésus. Moi, j'adore ces versets parce que c'est les derniers moments de qualité que passe Jésus avec ses disciples. Moi, j'aime trop les moments relationnels, etc. J'aime trop les one-one, j'aime trop le fait d'être ensemble et tout, je suis connecté et tout. Et en fait, là, on parle quand même des derniers moments de Jésus avec ses disciples. Et là, il leur dit, entre autres, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Donc Jésus, il nous a envoyés dans le monde dans lequel on est, ce monde post-moderne, même si on n'appartient pas à ce monde. Voilà. Un autre verset qui pourrait aussi nous guider, « J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. » Donc l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9 qui dit que « Je me suis fait juif avec les juifs, je me suis fait non-juif avec les non-juifs, je me suis fait faible avec les faibles. » Voilà, c'est comment est-ce qu'on va s'adapter à la personne. C'est un peu fini. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont encore des bracelets là avec la croix, le cœur ici? Non, il y en a qui ont encore des 4 points. Ok. Voilà, moi, on m'a toujours appris comme ça à évangéliser. On m'a dit, tiens, Clément, tu vas dans la rue, tu trouves quelqu'un des 4 lois spirituelles, on t'explique, Dieu a créé le monde, ensuite, il y a le péché, puis ensuite, tu vois, Jésus, il est venu pour te sauver, puis maintenant, tu fais quoi? Hein, tu fais quoi? Donc moi, j'ai appris comme ça, je suis sorti évangéliser, mais en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils comprennent pas. Déjà, je prends le péché, ils sont là, quoi, c'est quoi le péché? Je comprends pas, et tout. Donc en fait, s'adapter aux gens. Je sais pas si vous avez remarqué, bon, je divague un peu, mais dans Jean 3, vous connaissez Nicodème, Jésus qui explique qu'il faut naître de nouveau dans le ventre de sa mère. Et dans Jean 4, qui est juste après, il explique la même chose, mais d'une autre façon, avec la Samaritaine. Qu'il y a un moment où on adorera en esprit et en vérité, par le Saint, enfin, avec l'esprit en nous, quoi. Et du coup, Jésus, il a parlé au mec le plus intello de l'époque, le pharisien qui était Nicodème, et avec la Samaritaine, il explique la même chose, mais d'une autre façon. Et je pense qu'en tant que disciple de Jésus, à nous de nous adapter. C'est pour ça qu'on va faire des ateliers. Si vous avez beaucoup d'amis plutôt bouddhistes et que vous avez envie de savoir ou dans votre famille et que vous n'avez pas vraiment creusé parce que peut-être après, rapidement, un de vos parents s'est converti, vous n'avez pas vraiment creusé c'est quoi le bouddhisme, allez voir l'atelier de Thomas sur le bouddhisme. Si au contraire, vous avez beaucoup d'amis musulmans ou même vous dites, purée, j'ai pas mal de... Des fois, même ils vous font peur, allez voir les musulmans, allez voir l'atelier de Sam. Et notamment pour les catholiques, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt des baptous, des blancs, entre guillemets. Oui, le fait est que la plupart ont grandi dans des milieux plutôt catholiques et ça peut être intéressant de comprendre un peu comment ils sont. Ou peut-être que vous avez encore des catholiques qui sont très pratiquants. Ça existe encore, hein, franchement, ça existe encore. Et beaucoup plus que ce que vous pensez. Voilà. Et enfin, dernier verset, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Je pense que c'est vraiment le verset clé. Parce que on a un monde qui nous dit il faut réfléchir comme ça, et confiance. Et en fait, nous, on ne doit pas se conformer à ça, mais on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est comme si notre intelligence, on faisait clic, 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 il faut être renouvelé. Comment on est renouvelé? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu en nous, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les défis de l'Église. Donc en fait, quand j'ai parlé vraiment de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire nous en tant que chrétiens. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on va apporter ça? On pourra bien sûr prendre ces principes-là et dire, je l'applique dans ma vie quand je suis tout seul avec mes amis. Mais là, j'ai parlé avec l'Église, dans une approche avec l'Église, une approche plutôt collective, globale. Sachant que la plupart des choses que je vais dire par la suite, je ne les ai pas vraiment inventées, ça vient d'un super livre que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « Perfection interdite pour une église accueillante ». En gros, c'est John Burke, c'est un pasteur à Gateway, à Austin, au Texas, qui a expérimenté en fait des implantations d'églises avec très peu de chrétiens de souche, on va dire, de parents chrétiens, etc. Et il a eu des drogués, il a eu des homosexuels, il a eu des gens qui venaient de tous horizons, des gens qui étaient déjà en couple, qui n'étaient pas mariés, mais qui venaient à l'église, qui se convertissent, etc. Et en gros, c'était comment est-ce que je les accueille? Comment est-ce qu'on intègre ces personnes-là dans l'Église? Parce que le but de l'Église, ce n'est pas d'être resté entre chrétiens, on fait des enfants et on reste chrétien. Ce n'est pas ça. Si c'est ce que vous pensez, je suis désolé, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ça fait partie, bien sûr, qu'on ait des enfants qui deviennent chrétiens. Mais le gros défi pour nous en tant qu'Église maintenant, c'est comment j'accueille mon prochain. Voilà, j'ai piqué un peu ces idées qui sont là. Et dedans, il parle du principe de la culture. En fait, il définit la culture d'église. C'est un peu comme la colle qui relie les éléments d'une même structure. C'est tout ce qui est tout ce qui est pratique de l'église, les comportements, pourquoi et comment les personnes agissent. C'est-à-dire que si je viens à l'église de Massina, ou je vais à l'église de Saint-Maur, je vais à l'église de Noisy-le-Grand, je vais là-bas, la culture, je ne la vois pas. Mais tout ce que la façon dont les gens vont interagir, si les gens ils viennent me voir direct, oh, Clément, c'est la première fois que tu vois et tout, comment ça va et tout, bah ouais, je me sens accueilli. Donc, ouais, je me dis que la culture de l'église est plutôt accueillante. Mais c'est pas forcément le bling-bling derrière, c'est pas parce qu'on a des super fenêtres, c'est pas forcément parce qu'on a une super salle. Ça, c'est le superficiel et ça peut aider. C'est l'esthétique. Mais là, je parle de la culture d'église, c'est vraiment qu'est-ce qui fait, quel est le slogan finalement de votre église. Voilà. Et on a parlé déjà de cette marque, hein, McDonald's. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan de McDonald's. Venez comme vous êtes. Ouais, alors ce slogan, c'est un peu le slogan, je pense, qu'on devrait avoir dans notre église. C'est comment est-ce qu'on accueille les gens? Comment on fait en sorte que quelqu'un qui vient d'un milieu postmoderne, qui ne connaît rien à l'église, rien du tout, comment est-ce que, quand il vient dans l'église, il se sent vraiment à l'aise? Et je pense que c'est important, du coup, dans chacune de nos églises, de réfléchir. Ok, peut-être je suis dans une église Hmong. Si un gars qui n'est pas Hmong qui vient dans mon église, comment je fais? J'appelle le pasteur et je lui dis, tiens, reste avec lui, ou est-ce que, voilà, non. Enfin, voilà, c'est peut-être, mais peut-être vous avez réfléchi comme ça, vous dites, ah ouais, mais je ne me suis jamais imaginé qu'un jour, il y a quelqu'un qui n'est pas Hmong et qui va venir, voilà, par exemple. Ou dans l'église chinoise, ça marche aussi. Ou peut-être si un chinois vient à l'église de Thomas, je ne sais pas comment on fait et tout, voilà. Donc, c'est important de réfléchir, parce que ce qui fait revenir les gens, c'est pas juste l'aspect, c'était cool, l'ambiance et tout ça, c'est est-ce que il se sentit à l'aise quand vous étiez là. Est-ce que vous sentez bon? Alors, je ne parle pas du parfum, etc. Hein, mais c'est l'atmosphère. Quand vous venez ici, vous dites, mais ah, je me sens quand même bien. Et moi, j'avoue, quand je me suis converti, la première fois que je suis à l'église, j'avais 16 ans. Donc, j'étais pas chrétien. Et moi, ce qui m'a fait revenir, je peux vous dire, l'église, elle n'était pas très propre. Enfin, voilà, c'était... Mais les gens, ils s'aimaient, quoi. Il y avait vraiment un amour qui m'avait attiré chez les gens. Et je me suis dit, bah, waouh, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que je commençais à aller à l'église, etc. Et finalement, j'étais touché par le Seigneur. Mais vous voyez, c'est... L'église en soi, il n'y avait même pas de pasteur, tu vois. Donc, je venais comme ça et voilà. Donc, c'est important, la culture d'église. Et du coup, en tant qu'église, il faut qu'on réfléchisse à une réponse à apporter à 5 domaines, 5 grands problèmes de la postmodernité. Premier domaine, c'est la confiance. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous allez croiser, ils ont une perte de confiance, peut-être due à... Ils ont été trahis, ils ont été blessés, et du coup, ils ne veulent plus faire confiance aux autres. Et du coup, bah, c'est nous, comment est-ce que, en tant que chrétien, je peux vraiment avoir une amitié avec la personne? Je ne suis pas là juste à balancer l'évangile, comme un boomerang finalement, mais je suis là à voir la personne et m'adapter à elle. L'écouter, forger une vraie relation d'amitié. Et je peux vous dire, j'en ai fait des campagnes d'évangélisation, Timothée, hein, fait même plus que moi, le plus dur, c'est le suivi. On ne sait plus après qu'est-ce que deviennent ces personnes. Parce qu'en fait, on était là, on leur parlait, on avait des coordonnées, mais on ne prenait pas le temps de les voir. Mais si on prend juste 2-3 personnes et on se dit, bah, j'investis du temps dans elles, ben, ça peut donner du fruit. La tolérance, deuxième problème. Quand les gens vous posent... Est-ce que vous avez déjà des gens... Alors, ça peut être vos amis, votre famille, vos collègues, qui vous posent la question, bah, en fait, qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà... Vous pouvez lever la main si on vous a déjà posé la question? Ouais. Ok. Est-ce que vous avez essayé de répondre? Ou est-ce que vous avez fait... Ouais, bon... Vous avez fait... Il y en a qui ont répondu ou pas? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, par exemple, Kylian?
Moi, je disais que c'était quand même des enfants de Dieu, qu'ils avaient été aimés par leur père, et que c'était pas un problème, et que Dieu les écartait pas. Mais qu'au contraire, du coup, c'était comme n'importe qui, au même titre que n'importe quel péché, ils faisaient de ça une épreuve pour eux.
Ok. T'as dû expliquer c'était quoi le péché, tout ça, ou...
Après, je suis rentré plus dans le détail.
Ça, c'est l'idéal, c'est quand on a le temps d'expliquer. Ok. Sachez que la plupart du temps, ce que disait l'auteur de ce bouquin, quand les gens vous posent... Alors, il y a deux questions les plus fréquentes qu'on vous posera dans le monde postmoderne dans lequel vous êtes, dans cette matrice. C'est qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? C'est un peu la question de base. Et la deuxième, c'est et les autres religions? Qu'est-ce que vous en pensez des autres religions? C'est un peu la même chose, non? Vous avez, l'islam, vous, les chrétiens, et le judaïsme, c'est le même Dieu. Enfin, voilà. Et les autres religions, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vous pose cette question, en fait, l'idée derrière, c'est que ces gens-là veulent vous tester, en fait. Ils veulent vous rentrer dans la catégorie de « Est-ce que je t'assimile à ces mouvements que je vois à la télé, ou ça avec des pancartes, repent, sin, enfin, aux États-Unis il y a ça, hein, repentez-vous, pécheurs, dans des gay pride, ils sont comme ça. Moi, j'étais encore avec Tatiana, il y avait une grand-mère, elle était avec là, comme ça, je connais pas et tout, enfin, voilà. Est-ce qu'ils vous assimilent, en fait, à des personnes qui sont complètement intolérantes, ou est-ce que, finalement, ils vous présentent pas, enfin, ou est-ce qu'ils vous cataloguent pas là-dedans? C'est vraiment un test. Donc après, c'est pour ça que c'est super important de la manière dont vous répondez à ce genre de questions. Et ensuite, bah, c'est à nous justement de présenter le Dieu qui est tolérant. Justement. Il n'y a pas plus tolérant que Dieu. Il n'y a pas plus amour que Dieu. Mais il y a aussi la sainteté de Dieu et la justice de Dieu. Et c'est à nous d'expliquer ça. Ça, c'est notre défi. Une autre chose, c'est la vérité. Alors, on a déjà dit, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Du coup, bah, ok, c'est ta vérité. Toi, tu crois ça, moi, je crois ça. Vas-y, tu ne me déranges pas. On vit côte à côte, il n'y a pas de souci. Mais le plus grand défi, justement, dans cette société postmoderne, c'est comment les gens réagissent émotionnellement par rapport à ce monde dans lequel ils sont. Parce que si, à un moment donné, ils sont moins dans les jeux vidéo, ils sont moins dans les vidéos Netflix, le streaming, etc., ils n'aiment pas ça. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi est-ce que, d'après vous, les gens n'aiment pas trop prendre du recul par rapport dans les trucs dans lesquels ils sont? Ouais. Souvent les gens sont à fond dans un truc. Ils ont pas le temps en fait. En fait quand je veux dire bah tiens on peut parler Dieu etc. Les gens ils veulent bien parler vite fait, mais après ils vont dire ouais je préfère faire ci, je préfère faire ça. En fait je suis dans les jeux vidéo, je suis avec ma copine, enfin voilà il y a plein de trucs. Et souvent en fait je me suis rendu compte que il y a quelque chose de. En fait ils aiment pas être seuls ces personnes là. Ils aiment pas être se poser des questions plus profondes en fait. Parce que si jamais ils se posent ces questions plus profondes, mais qu'est-ce qui a du sens? Est-ce que les 10... Moi, je suis un ancien gamer par exemple. Voilà, tous ceux qui sont gamers, etc. Je passais genre 5-6 heures par jour à jouer. Imaginez que j'allais en cours en seconde et tout ça, en première, en terminale. J'aime passer le bac en étant gamer, vous voyez. Donc, c'était chaud. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai arrêté au bon moment, juste avant de passer le bac. Et en fait, ouais, on est tellement dans notre monde que si on prend du recul et qu'on se dit, mais en fait, je suis misérable. En fait, il n'y a pas de sens dans ce que je vis. Et du coup, en fait, dans notre société, ils ont plein d'idées qui viennent, vous savez, plein de mouvements, etc. Et en fait, ils sont très ouverts au spirituel. C'est le dernier point que tu disais, ils sont super ouverts, ils vont voir des voyantes, alors il n'y a pas plus ouvert. Mais une chose à laquelle ils résistent, c'est l'arrogance. Le fait de dire, bah, moi je suis chrétien, toi t'es quoi toi? Enfin, voilà, si je dois résumer un peu. Et du coup, la question la plus profonde qu'ils vont se poser, c'est est-ce que je veux être comme toi? C'est même pas est-ce que tu peux m'expliquer la théorie d'évolution par rapport à la création, etc. C'est est-ce que toi, dans ta manière de vivre, j'ai envie d'être comme toi? Et c'est pour ça que quand on explique que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, verset 6, c'est un peu le verset clé, nul ne vient au Père que par moi, quand on explique que Jésus est la vérité, ben ça reste, ok, c'est ta vérité, mais par contre c'est à nous d'incarner cette vérité. C'est-à-dire c'est à nous de vraiment vivre comment Jésus voulait qu'on vive. Vous voyez ? Quatrième chose avec laquelle l'Église peut apporter une réponse, c'est le désespoir. Les gens ont perdu confiance, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de restauration, ils ont besoin de libération. Et c'est à nous, justement, quand ils vont venir dans l'Église, ben, de montrer qu'ils sont les bienvenus. Moi, je pense à Jésus qui a accueilli la Samaritaine, qui a eu 6 maris, et le 7e, c'est même pas son mari. La femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, dans Jean 8, je crois. Voilà, Jésus les a. Il était avec eux, quoi. Il était avec ces personnes. Et à nous aussi d'être avec ces personnes aussi, je pense. Et je pense aussi, c'est que on peut témoigner justement que oui, la vie chrétienne, c'est pas tu vas recevoir Jésus, c'est la vie rose tous les jours. Il dit, bah ouais, tu sais, moi j'ai vécu des moments. Et en fait, quand tu commences à te livrer et que tu expliques un peu comment tu vis, les gens comprennent que ok, c'est pas un évangile bisounours, Big Mac, mais c'est vraiment Dieu. Vous pouvez venir derrière, venez. Il y a de la place ici. Et enfin, dernière chose à laquelle les gens luttent, c'est la solitude. Les gens se sentent seuls. Et je pense qu'en tant qu'église, on doit pouvoir leur présenter ce que c'est que d'être une famille. Est-ce que, je ne sais pas, des fois, peut-être chez vous, vous ne vous sentez pas trop en famille, mais quand vous venez en église, bah, vous vous sentez en famille, quoi. Je ne sais pas si certains... Non, ça, vous ne vivez pas trop ça dans l'église. Si. Si. Bon, on est un peu frères et sœurs quand même, donc c'est un peu le but. Hein. Voilà, ok. Vous êtes avec moi. Ok, super. Donc, on apprend justement à vivre des relations où les gens peuvent guérir, et ça, c'est le but de l'église. Et le but, c'est pas juste de rester entre nous. Le but, c'est de vivre avec les gens et de dire, bah, regardez ce qu'on vit. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les autres verront que nous sommes ses disciples. Et bah, venez avec nous. Venez vivre. Venez comme vous êtes. Et du coup, ça nous apportait des réponses en créant une culture du dialogue. Là, je rentre plus dans le détail sur la culture du dialogue. Donc, c'est permettre aux gens qui se posent des questions de venir vraiment poser leurs questions et de pouvoir échanger. Laisser de la place au doute et savoir aussi. Je sais pas, des fois, des gens vous racontent « Oh, il s'est passé ça » et puis « Franchement, j'ai cru que j'allais mourir, mais finalement, j'ai eu un accident, j'ai presque rien eu. » Moi, j'ai entendu une histoire comme ça d'une collègue, j'ai dit bah, là, tu vois, moi, je pense que c'est Dieu, quoi. Enfin, en fait, c'est essayer de repérer dans l'histoire de la personne, de ce qu'il vous raconte, que Dieu était déjà là. En fait. Ça peut interpeller. Deuxième chose, c'est culture d'authenticité. C'est de créer une relation avec la personne pour que, finalement, on puisse les aider à marcher de plus en plus proche de Dieu et finalement vers ce qui s'appelle la guérison, en fait, pour être complètement guéri par rapport à ce qu'ils vivent. Une autre chose aussi, c'est la culture de la grâce. Parce que le monde aujourd'hui ne nous offre pas la grâce. Le monde aujourd'hui nous offre un substitut dont on a parlé, qui est la...
L'indifférence.
L'indifférence, ouais. La tolérance.
Tolérance.
Ouais. Ah, mais toi, t'es intolérant, toi. Et en fait, la tolérance, ça valorise pas les gens. On s'accommode. En fait, on se dit, ouais, ok, toi, t'es comme ça. Ça me va. Mais en fait, on va pas plus loin, quoi. Mm-hmm. En fait, elle fait avec les différences. Mais Dieu, il est plus que ça. Parce qu'en fait, il retient son jugement. Il aurait pu déverser son jugement sur les hommes. Mais au lieu de ça, il a déversé sa grâce et on est dans les temps de la patience. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, si on prêche l'évangile, il peut y avoir encore des conversions. Et alléluia, il y a encore des conversions. C'est pas comme au baseball, je sais pas si vous... Enfin, est-ce qu'il y en a qui suivent vite fait le baseball ici?
Non.
Personne. Vous connaissez le principe du baseball ou pas?
Ouais, le principe.
Ok, donc il y a un mec... Il a le droit à combien d'essais?
3.
Ok, ouais, bon. Il a le droit à 3 essais. Donc en fait, le mec, il est comme ça. Il y a un autre gars qui... Une fille, hein, voilà. Il lui envoie la balle. Et en gros, c'est l'expression traduite de l'anglais au français. C'est 3 essais et tu gicles. Ça veut dire que tu as tapé, tu as raté 3 fois la balle et que tu n'as pas fait un home run qui fait que la balle va dans les tribunes et que de toute façon, tu fais ton tour et c'est bon. Ben, tu gicles. Et en fait, c'est un peu... C'est pas du tout comme ça la logique divine. C'est peu importe le nombre de fois que tu vas tomber, ben il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein, dans le chant au Dieu. Romains 8, verset 31. Quatrième chose, créer une culture de l'accueil. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Et je pense que l'accueil, c'est super important dans nos églises. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, ah ouais, c'est vrai que comment on fait? Imaginez, il y a 3 nouveaux qui arrivent dans votre église, comment vous faites? C'est la personne de l'accueil qui doit tout gérer ou est-ce que c'est... Voilà. Essayez de réfléchir. C'est possible, en fait. Aujourd'hui, les gens sont curieux. Nous, dans notre église, ces dernières semaines, en 2 mois, on a eu 3-4 personnes qui sont venues à l'église par le site internet. Donc, c'est... À un moment donné, on a un site internet, donc c'est-à-dire que nous, on n'en a rien fait, mais c'est eux qui sont venus. Certains sont revenus, certains non, mais voilà. Mais peut-être, est-ce qu'ils ne sont pas revenus parce qu'ils ne sont pas sentis accueillis? Ouais, c'est une question aussi à se poser. Une culture aussi, pardon, d'amour, parce que les paroles ne suffisent pas toujours. Il faut aussi qu'on puisse montrer aux gens qu'on les aime et qu'ils sont les bienvenus, malgré... Enfin, je ne suis pas d'accord avec ton péché, etc., mais je t'aime. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit qui tu es, c'est qui tu es qui définit qui tu es, en fait. Et enfin, une culture de la confiance. Les gens, en fait, aujourd'hui, ont du mal à se sentir acceptés. Donc, c'est à nous de leur montrer qu'ils peuvent se sentir en confiance avec nous et surtout qu'ils peuvent se sentir en confiance avec Dieu. Nous, on est juste là pour être un intermédiaire. On pense au berger qui a risqué la vie de ses 99 brebis pour aller chercher la sienne. On peut penser au père et au fils, enfin, avec son fils prodigue, vous savez, celui qui va dépenser dans la débauche tout son héritage. On peut aussi penser à la femme joyeuse qui a retrouvé une pièce qu'elle avait perdue. Et au père qui fait une fête pour son fils, qui dit d'aller inviter toutes les personnes dans la rue. Voilà. Les gens se sentent en confiance de venir. Les erreurs à ne pas faire. C'est mon dernier point. L'erreur, c'est... ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas se concentrer sur le comportement pécheur de la personne, mais sur la beauté de la personne. Et en fait, il prenait une image. J'avoue, sur le moment, je me suis dit, waouh, l'image, c'est space, parce que... Qui aime bien les musées, ici?
Les musées
d'art contemporain, d'art classique. Moi, j'en vois, ils ricanent derrière, tout cas. Je sais qu'eux, ils vont jamais au musée. Mais c'est pas grave. Moi non plus, en fait. Mais, ok. En fait, il prend l'image d'un tableau de Rembrandt. Rembrandt, par exemple. Voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, et il dit, imaginez que ce tableau, il y a une grosse tache dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Ou il est couvert de boue, par exemple. Si c'est moi qui vais l'enlever, je vais prendre du sopalin, je vais faire un clac, 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 clac. Et en fait, je vais vraiment pourrir le... Je vais vouloir, en fait, le guérir lui-même, ce tableau. Enfin, je vais vouloir vraiment le soigner lui-même, moi, par moi-même. Mais en fait, ça va faire pire que tout. Mais par contre, si je prends ce tableau et je l'amène vers un maître vraiment spécialisé dans ça, dans le fait de restaurer les œuvres, ben, il va pouvoir la restaurer et elle va retrouver son état d'origine. Et je pense que c'est pareil de nous avec le cœur des gens, en fait. Les gens, peut-être on voit un péché ou quoi, et direct on veut effacer, ouais, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Mais en fait, ces gens-là, c'est à nous plutôt d'être avec eux, de les accompagner et petit à petit les amener à la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse les toucher, en fait. Voilà. Donc, se concentrer plus sur le chef-d'œuvre plutôt que sur la boue. Deuxième chose, ne pas confondre acceptation et approbation. On peut dire à la personne, ok, c'est pas... je t'accueille comme tu es, mais tout ce que tu fais, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu fais, mais c'est pas grave, on s'entend quand même. Ne pas aussi d'avoir d'attente de la personne. Si la personne s'est pas engagée à suivre Christ, on peut pas s'attendre à la voir agir comme un chrétien. C'est normal. C'est normal. Et enfin, dernière chose, ne pas arracher le bon blé avec les mauvaises herbes. Parfois, quand on insiste trop sur le péché de quelqu'un, il va s'éloigner au lieu d'être accueilli, en fait. De se sentir accepté et d'être changé ensuite par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien dire. Mais si à chaque fois que vous le voyez, que vous voyez toutes les deux semaines, imaginons que vous avez mangé au McDo, à chaque fois vous dites « Bon, t'arrêtes pas de fumer ? T'arrêtes pas de fumer ?» À un moment donné, voilà, la personne... Voilà. J'ai pas le temps pour développer plus, mais sinon on pouvait aussi, pour ceux qui sont intéressés, j'avais proposé aussi une intervention sur comment répondre au fait que les autres croyances, notre croyance est plus importante que les autres croyances. Comment est-ce qu'on peut définir que la foi chrétienne est vraiment la vérité et comment on répond à cette question, en fait. Voilà. Mais j'ai fait long, donc...